vous avez trouvé dans votre dernier journal de paroisse, le Nouvel, reçu cette semaine, un petit cadeau. Ce semainier, 2017, nos thèses pour l'Évangile, 40 semaines pour cheminer. En 1517, un moine allemand, Martin Luther, affiche sur la porte de l'église du château de Wittenberg 95 thèses pour l'Évangile, en réaction à diverses pratiques ecclésiales courantes. Afficher ces points de vue était en réalité une manière assez courante à cette époque de susciter débats et controverses. Par ce geste, un mouvement religieux et bien au-delà politique, qui va très vite le dépasser, est lancé dans la sphère de l'Église, en vue d'abord de la réformer, puis finalement, vous le savez, qui aboutira à la scission et à la naissance des églises réformées. Notre toute jeune église protestante unie, héritière de la réforme, se veut être, à peine née, déjà une église qui marche, engagée et engageante, et nous ne pouvons qu'en être reconnaissants. Une dynamique nationale est lancée. On nous explique, dans la petite introduction, à l'occasion des 500 ans de cet acte fondateur, inspirons-nous du geste de Luther. Quelles sont nos thèses pour l'Évangile aujourd'hui? Il poursuit, de 2014 à 2017, convaincus ou hésitants, vieux parpaillots et nouveaux venus, anciens et jeunes, nous sommes tous appelés à répondre chacun et ensemble. Puis viennent des questions qui interpellent notre foi. Pour nous, que signifie faire confiance à Jésus-Christ? Comment vivre et dire son évangile? Que change-t-il dans notre rencontre avec les autres comme avec nous-mêmes? En quoi donne-t-il son sel, sa lumière, son sens à notre vie personnelle et commune? Vous l'entendez, des belles, bonnes et grandes questions que nous sommes invités à saisir. Rassurez-vous, nous ne sommes qu'en 2014, donc il nous reste encore 3 ans pour trouver les bonnes réponses. Pour la première année ensemble, toutes les églises locales de l'Église protestante unie en France vont cheminer avec ce même semainier, personnellement et en communauté, pour arriver non pas jusqu'au 31 décembre, mais jusqu'au 11 octobre prochain, où nous serons invités pour cette journée à un temps de communion fraternelle. Alors je vous invite, à la suite de l'équipe qui prépare cette dynamique, et à laquelle d'ailleurs Nicole Roulant-Rupp, qui est pasteur en Savoie, que vous connaissez, elle est venue prêcher ici pour la reconnaissance des ministères des conseillers presbytéraux, je vous invite à vous saisir avec joie et confiance de ces réflexions hebdomadaires. Vous avez déjà 6 semaines à rattraper. Vous avez peut-être eu le temps de le faire déjà. Afin de cheminer ensemble avec ces questions essentielles et existentielles. Alors, pour aujourd'hui, dimanche 9 février au samedi 15 février, la semaine 7. Vous savez que pour nous chrétiens, la semaine commence le dimanche. Aujourd'hui, une exhortation, lève-toi et marche. Accompagnée d'une question. Ça donne quoi dans une ZEP, dans une maison de retraite, dans ma famille? Commençons par la ZEP. Zone d'éducation prioritaire. Dans notre secteur paroissial, je suis allée me renseigner sur Internet, un seul établissement répond à cette appellation. C'est peu. Ce n'est donc peut-être pas dans ces lieux que nous pouvons le mieux nous sentir appelé ici par cette question. À moins, bien entendu, que vous soyez concerné par cet établissement ou que vous viviez ou ayez vécu une telle expérience ailleurs. Et qu'alors cette interpellation « Lève-toi et marche !» ça donne quoi dans une ZEP ? Résonne pour vous. Mais il me semble que sans aller jusque dans des ZEP, dans les établissements scolaires que nous fréquentons, peut-être plus le collège en particulier, ce sont des lieux qui peuvent être douloureux pour certains. Professeurs et élèves en témoignent. Une difficulté à intéresser les élèves, un échec scolaire, un harcèlement envers les plus faibles, une mise à l'écart de ceux qui ne rentrent pas dans les rangs, une violence gratuite et répétée. Aller à l'école n'est pas toujours un plaisir. Et aux côtés des enfants qui viennent ici au catéchisme, comme des professeurs, nous avons bien des « lève-toi » à offrir et à proclamer. Même s'il te semble enseigner dans le vide, même si tu as de mauvais résultats à l'école, tu es précieux aux yeux de Dieu, ce Créateur qui te donne un avenir et une espérance, pour reprendre les mots du prophète Jérémie. Rien ne justifie que l'on te fasse du mal, par des coups ou par des mots. La différence peut être partagée comme une richesse. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'Éternel regarde au cœur, dit Dieu à Samuel, qui cherche un roi pour le peuple. L'Évangile te porte en enfant de lumière et te guide toujours vers la vraie vie. Deuxième lieu qui nous est proposé pour une résurrection, car finalement, oui, c'est bien de cela dont il s'agit. Quand on entend « lève-toi et marche », si l'on regarde le grec dans nos Bibles, il s'agit du verbe « egairo », le même verbe utilisé pour les résurrections. Alors quand l'Évangile nous dit « lève-toi », il nous dit « passe de la mort à la vie, ressuscite ». Alors ça donne quoi dans une maison de retraite ? Là, il me semble que cela peut sonner plus facilement. Comme dans beaucoup de régions de France, la nôtre est bien lotie en maisons de retraite, foyers logement, EHPAD et autres affiliés. Quoique les listes d'attente pour y entrer restent toujours longues, au dire des concernés. La grande question ici est la suivante. Comment annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile qui met debout à celles et ceux qui physiquement souvent ne le peuvent même plus ? Et qui, moralement, souvent aussi, partagent avec celles et ceux qui leur accordent un peu d'écoute, je me sens inutile, je n'ai plus envie de rien. Ou encore, plus personne ne pense à moi. L'équipe des visiteurs de notre service d'entraide témoigne souvent lors de nos rencontres de la difficulté, en effet, de témoigner d'une parole qui dit « lève-toi » à une personne qui ne le peut plus, dans son corps comme dans sa tête. Et de même, sans faire partie d'une équipe de visiteurs, même sans aller dans des maisons de retraite, vous avez sûrement dans votre entourage, famille, amis ou voisins, des personnes qui sont écrasées par cette même situation, ne plus pouvoir se lever, au sens propre comme au sens figuré. Vous avez peut-être, vous-même, également vécu cette situation d'écrasement. Ou peut-être la vivez-vous en ce moment. Eh bien, paradoxalement, et c'est là toute la beauté de l'Évangile, c'est au cœur des lieux de mort, tels ceux que nous sommes en train de décrire, que la vie pourra se partager et se recevoir le plus effectivement possible. C'est dans la mort que la vie pourra le mieux résonner. Vous connaissez ces mots très forts de l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est au creux des souffrances les plus profondes que la lumière de l'espérance du Christ pourra briller le plus fort. C'est lorsque je me sens faible aux yeux des hommes, ayant perdu mes capacités physiques, qui sont d'ailleurs portées beaucoup trop au nu dans notre société, particulièrement ici en Haute-Savoie, où la culture et le bien-être physique sont devenus des demi-dieux, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est quand je me sens inutile à la société, parce qu'on nous fait aussi croire que toute notre vie, il est important d'exister par l'action, en oubliant que par la parole de Dieu, nous existons d'abord parce que nous sommes uniques et précieux, tout simplement, avant même de faire quoi que ce soit. C'est donc dans ces situations de détresse profonde que nous pouvons traverser seuls, et quel que soit notre âge, où plus rien ne sert à rien, pour reprendre ici les mots de l'Ecclésiaste, que je peux alors faire place en moi à autre chose. Ouvrir une brèche dans les murs de certitude qui m'ont guidée jusque-là pour laisser filtrer la lumière. Car l'apôtre Paul écrit encore dans le même passage « La puissance du Seigneur donne toute sa mesure dans la faiblesse. » La puissance du Seigneur donne toute sa mesure dans la faiblesse. Alors il faut ajouter aussi, pour ne pas généraliser, vous savez que généraliser est dangereux en affaires humaines, que toutes les personnes vieillissantes ne sont bien entendu pas enfermées dans de telles souffrances, et fort heureusement, notre doyenne, pour ne citer qu'elle, par sa confiante lucidité, sa foi reconnaissante, balaye à coups de mots bien pesés, sourire aux lèvres, tous nos soucis quotidiens. Et nul besoin non plus d'être vieillissant ou en maison de retraite pour vivre dans sa chair et dans son cœur de telles souffrances. Le petit commentaire du Semainier cite ces situations difficiles. Maladie. Maladie physique ou psychique. Pour les plus jeunes, voire très jeunes aussi, le chômage. La peur du lendemain. La marginalisation. L'angoisse de ne pas être à la hauteur dans ses études vis-à-vis de sa famille. Et on peut ajouter le deuil sous tous ses visages. La culpabilité, la rancœur et l'orgueil sont des portes qui se dressent bien droites entre nos cœurs et Jésus-Christ libérateur. Écoutez bien. Dans les textes du jour que nous avons entendus, il s'agit bien de portes et non de murs, de portiques même pour Jean. C'est différent. À l'image de ces hommes infirmes, immobiles devant des portes, ne pouvant franchir ce seuil qui les sépare de Dieu, nous construisons ou bien laissons construire chaque jour de belles, grandes et solides portes entre nous et notre libérateur. Et nous soupirons après une parole qui nous fera déverrouiller et ouvrir ces portes. Lève-toi et marche. D'après un récent sondage Ipsos, les sondages, la France est une nation championne de l'angoisse et du pessimisme. Alors oui, bien sûr, comme sur la photo de notre semaine 7, un homme jeune, en costume, assis la tête baissée dans un coin sombre, eh bien, à cette image, notre quotidien trouve facilement mille et un coins sombres qui nous font baisser la tête. Mais toujours et en même temps, notre Dieu Sauveur en Jésus-Christ nous interpelle de tout son amour. Lève-toi et marche. Troisième et dernier lieu de résurrection proposé, dans ma famille. Lève-toi et marche, ça donne quoi dans ma famille? Excellente question. C'est peut-être de tous les lieux de bonnes nouvelles celui qui est le plus difficile à faire vivre. Nul n'est prophète en son pays. Les évangiles racontent que Jésus lui-même avait le plus de difficultés à annoncer son message de libération chez les siens. Nous devons le réaliser, et nous le savons, c'est bien parmi nos proches qu'il est le plus difficile de témoigner de la bonne nouvelle qui nous fait vivre. Combien de grands-parents et de parents partagent leur tristesse de ne pas être arrivés à transmettre leur foi à leur descendance? Si toutefois cela est possible de transmettre la foi, n'est-ce pas? Combien de personnes témoignent dans la souffrance de situations familiales difficiles qu'elles ne parviennent pas à apaiser, malgré l'espérance qui les habite et qu'elles essayent de partager, sans y parvenir a priori, une fois encore? Combien d'amis, ici ou ailleurs, engagés en Église, se résignent finalement à partager la bonne nouvelle avec celles et ceux qui partagent leur quotidien? Différentes raisons, par respect, par peur de lancer une énième dispute, on n'a pas besoin de ça, ou tout simplement par crainte du hors-sujet. Vous en connaissez tous de ces gens-là. Et nous en sommes les premiers. Voilà. Vous l'avez entendu, vous l'avez reçu. Une simple interpellation, lève-toi et marche. Suivie d'une question, ça donne quoi dans une ZEP, dans une maison de retraite, dans ma famille, peut ouvrir des chemins de foi nombreux, riches et bienfaisants. Alors ce matin, nous n'avons pas trouvé de réponse ad hoc, mais j'espère que nous repartirons enrichis de questions supplémentaires, appelées à résonner en nous toute la semaine et bien plus loin encore, afin de faire de nous des disciples, de celles et ceux qui ont choisi et choisissent encore chaque jour librement de mettre leurs pas dans ceux du Christ et de vivre de ces questions de foi en les recevant dans la confiance et l'espérance. Ces nouvelles questions font de nous ce matin aussi des apôtres, celles et ceux qui, avec joie et confiance, ont choisi et choisissent encore chaque matin de témoigner de cette bonne nouvelle qui les délivre et qui fait vivre. Alors que cette exhortation, « Lève-toi et marche », donnée par Dieu avec Ézéchiel aux ossements desséchés, image du peuple d'Israël anéanti, qui par la radicalité du changement nécessaire peut passer de la mort à la vie par la puissance de Dieu. Que ce « Lève-toi et marche » offert par Jésus à l'homme malade dans l'évangile de Jean, tenu prisonnier devant la porte et qui ouvre pour lui l'inattendu du possible dans une vie nouvelle, libérée des carcans imposés. Que cette même exhortation de Pierre encore à l'homme infirme dans le livre des Actes, cet homme qui se relève et ce Pierre qui lui annonce juste avant « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne par le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Que cette parole, faible aux yeux du monde, qui ne possède rien mais qui donne tout, retentissent comme vérité encore et toujours pour chacune de nos vies et illuminent les plus enfouis de nos coins sombres afin d'ouvrir toutes nos portes. Tu es mon enfant, je t'ai choisi tel que tu es, lève-toi et marche. Accompagnés, soyons chacun et ensemble des témoins de l'Évangile avec l'aide de Dieu. Amen. Thank you.